Et nous étions arrêtés au moment où la mission tzigane avait acheté un château, donc le château des Choux. Et le château était non seulement un centre de formation, un centre de retraite spirituelle pour les tziganes, mais aussi un centre pour l'administration du mouvement. Là résidait le trésorier de la mission, Jacques Sagnier, et non loin de là, à Orléans, donc Pasteur Le Cossec lui-même et sa famille. Pasteur Le Cossec divisa la France en 7 régions avec des responsables. Et en l'espace de 15 ans, 500 églises tziganes ont été créées. Dans le même temps, le pasteur Le Cossec s'est rendu compte qu'il y avait aussi des besoins très importants dans le domaine social, en ce qui concernait les tziganes. Et il a créé, à partir de ce château des Choux, une action sociale pour secourir les différents problèmes qu'il pouvait y avoir dans ce domaine-là. Et puis, jamais à court d'imagination, le pasteur Le Cossec aussi s'était rendu compte qu'il y avait un autre problème auquel les tziganes étaient confrontés, c'était celui justement de l'éducation de leurs enfants. Dans la mesure où ils se déplaçaient constamment, bien sûr, les enfants étaient censés aller à l'école dans le temps où ils stationnaient, donc dans l'endroit où ils stationnaient, mais vous imaginez ce que ça pouvait représenter, ce que ça représente encore pour des enfants d'aller 3 semaines, par exemple, dans une école à tel endroit. Au bout des 3 semaines, on part 15 jours à 300 km de là pour recommencer dans une autre école et ainsi de suite. Hein? Donc, jamais le même programme, jamais de suivi, jamais. Bon. Alors, au point de vue instruction, bien sûr, les choses ont quand même un peu évolué par rapport à ce que c'était dans toutes les premières années de la mission tzigane, où la plupart des tziganes étaient complètement analphabètes, illettrés. Bon. Là, finalement, à force de fréquenter telle ou telle école, la plupart des jeunes gitans réussissent, tant bien que mal, à savoir à peu près lire et écrire. Enfin, bon, un peu plutôt mal que bien, mais enfin, ils arrivent à s'en tirer plus ou moins. Mais ce n'était quand même pas l'idéal. Et alors, le pasteur Le Cossec a eu une idée de se dire, mais est-ce que dans le fond, on ne pourrait pas créer des écoles ambulantes, des écoles qui suivraient les groupes de tziganes? Il s'en est ouvert au ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale a accepté de tenter une expérience et a débloqué des fonds pour ce faire. La première institutrice, c'était une des propres filles du pasteur Le Cossec, qui était elle-même institutrice dans une école de la région, et qui a abandonné donc son poste pour prendre la direction de cette école ambulante, cette école roulante qui suivait donc un groupe de tziganes. Et il était entendu que si les choses marchaient, eh bien, l'expérience serait étendue à d'autres groupes. Bon, l'expérience fut un échec total, parce que les groupes se font et se faisaient et se défaisaient. Donc, finalement, il n'y avait pas de suivi non plus dans ce domaine-là. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale n'avait pas de moyens, n'avait pas de fonds à dégager pour créer d'autres écoles du même type, si bien qu'au bout d'un an ou deux, il a fallu arrêter l'expérience et que, finalement, le problème n'est toujours pas résolu aujourd'hui et il reste entier. Les tziganes vont à l'école un petit peu à la sauvette, comme ils peuvent. En général, d'ailleurs, ça se passe assez mal. Les instituteurs et les institutrices qui voient débarquer ces gens-là, qui savent qu'ils sont là pour un peu de temps, les mettent au fond de la classe, puis s'occupent très, très moyennement d'eux. C'est comme ça, en général, que ça se passe. En 1975, la mission tzigane entra dans la Fédération protestante. Il faut dire que c'était quelque chose qui suivait l'entrée de 3 églises des Assemblées de Dieu françaises dans la Fédération protestante cette même année 1975, le Centre missionnaire de Carré, l'église protestante évangélique de Vannes et l'église de Brest, l'église pentecôtiste de Brest. Cette entrée de ces 3 églises dans la Fédération protestante marqué, pensait-on, à la rue Clichy, le départ de l'ouverture du mouvement de Pentecôte à la Fédération protestante. Et lorsque, fort de cet exemple, les tziganes ont demandé leur entrée dans la Fédération protestante, il y a eu une acceptation unanime, quasi unanime, du mouvement tzigane. C'était pour la fédération protestante un avantage sur deux plans. D'abord parce que c'était pour le premier groupe pentecôtiste important qui entre dans la fédération protestante. Les trois églises précédentes représentant quand même un nombre assez limité de gens. Deuxièmement, parce que la fédération protestante qui se piquait, elle aussi d'action sociale, du souci des pauvres, du souci des petits, n'avait jamais eu tellement l'occasion de concrétiser cette bonne volonté qui était la sienne, qui restait souvent à l'état beaucoup plus théorique que réel. Et à partir du moment où les Tziganes ont demandé leur rattachement à la fédération protestante, c'était pour la fédération protestante l'occasion d'avoir enfin justement ces prolétaires. Et on peut dire que les premiers temps, les Tziganes ont été quelque peu cajolés par les autorités protestantes. Ça leur a permis d'obtenir un certain nombre justement d'avantages. D'abord, d'être reconnus davantage par les autorités, d'avoir moins à se soucier des problèmes de stationnement qui étaient souvent très difficiles pour eux, qui le sont encore. C'était aussi les années où on commençait déjà à monter la vague anti-secte, et les Tziganes étaient souvent pris aussi dans cette mouvance-là, tant et si bien que leur entrée dans la fédération protestante les dédouanait. Par contre, les Tziganes ont eu plusieurs difficultés majeures dans la fédération protestante. La première, c'était avec l'intercommunion. Il a fallu négocier sec ce qui concerne justement un des points essentiels de l'appartenance à la fédération protestante, à savoir que les membres de la fédération protestante s'engagent à donner la communion, la Sainte Cène, à tous les membres de la fédération protestante qui n'appartiennent pas obligatoirement à leurs églises. Les Tziganes étaient donc formés à la stricte observance pentecôtiste qui veut qu'on ne donne la Sainte Cène qu'aux croyants qui sont baptisés. La perspective de devoir donner la Sainte Cène à des réformés, par exemple, qui n'étaient baptisés qu'enfants, ne passait pas du tout au milieu de Tziganes. Et là, la Fédération protestante a dû transiger sur cette question qui pourtant était une question essentielle pour elle. Par la suite, les relations avec la Fédération protestante se sont un petit peu tendues dans la mesure où les Tziganes ont parfois manqué de prévenance, disons. Il faut dire qu'il y a chez certains Tziganes un certain culot, entre guillemets, qui les amène parfois à se comporter un peu dans certains temples réformés où ils venaient faire des missions, un peu comme en pays conquis. Et ça a indisposé évidemment à leur endroit un certain nombre de pasteurs réformés, et non réformés d'ailleurs, pasteurs de la Fédération protestante. Et alors les relations se sont un petit peu tendues. Il y a eu aussi des maladresses qui ont pu être faites ça et là par tel ou tel. Et si les premières années ont été un petit peu une découverte un peu idyllique, ça a été ensuite un peu plus difficile. Une autre source de difficulté a été avec l'œcuménisme. Les Tziganes étaient tous d'origine catholique, pratiquement. Les cadres de la Fédération protestante l'étaient également, parce que le Cossack était un ancien catholique. Et les relations avec les catholiques qui étaient normales dans la Fédération protestante ont fait problème. Au début, c'était un peu moins dans la mesure où le mouvement charismatique, nous avons l'occasion de parler, touchait un certain nombre de catholiques. Et on a pu voir une certaine collaboration avec l'aumônier général des Tziganes, l'abbé Barthélémy, qui avait été un des plus farouches opposants du mouvement Tzigane tout à fait à ses débuts. Et puis, à nouveau, les relations se sont tendues. Les Tziganes n'ont pas toujours été non plus très, très diplomates dans ce domaine-là. Et au bout de quelques années, les autorités catholiques ont fait circuler un peu partout des mises en garde contre les Tziganes, allant jusqu'à les qualifier de sectes. La Fédération protestante a essayé d'intervenir à plusieurs reprises. Elle s'est entendue répondre que les Tziganes avaient parfois des pratiques difficilement acceptables, etc. Ce dont il a fallu d'ailleurs bien convenir, n'est-ce pas, de sorte que, bon, la situation est un petit peu floue actuellement aussi à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Les autorités catholiques sont plus que réservées vis-à-vis justement du mouvement Tzigane et ne manque pas une occasion de le dire aux responsables de la Fédération protestante. Les Tziganes ont réussi à obtenir malgré tout des aumôniers, des aumôneries, aumôneries aux armées, bien que pas toujours beaucoup de Tziganes ne fassent pas des prodiges dans ce domaine-là. Ils ne sont pas tellement taillés dans les fibres dont on fait des héros nationaux. Mais surtout, ils ont eu des aumôniers dans les prisons, ce qui est là et se conçoit déjà un peu davantage. Car hélas, il faut bien le dire que le réveil étant un petit peu du passé, il y a pas mal de frères et de sœurs dans les prisons, n'est-ce pas ? Des frères voleurs et des sœurs qui ne le sont pas moins. Tant et si bien qu'un solide encadrement d'aumôniers de prison s'imposait naturellement. Puis aussi pour les aider, évidemment, à se réinsérer à la sortie de prison. Bon. Un autre problème qui n'a jamais été véritablement résolu chez les Tziganes, c'est le problème des offrandes. Le frère le Cossack s'est considéré dès le départ comme missionnaire, nous l'avons vu, au milieu des Tziganes. Et par conséquent, compter sur les offrandes des non-Tziganes pour entretenir la mission. Ça se concevait parfaitement dans les premiers temps de la mission, où d'abord le nombre des convertis était peu nombreux, et d'autre part, les convertis eux-mêmes étaient très pauvres. Ça se conçoit nettement moins de nos jours, où le nombre, évidemment, a considérablement augmenté, et où un certain nombre de Tziganes sont aisés. Ils ne sont pas tous, pas généralisés. Mais certains ont le sens des affaires, et certains vivent bien. Et le frère Le Cossack a essayé de les enseigner sur l'offrande, mais les gitans ont toujours été très, très chatouilleux sur tout ce qui touchait à l'argent. Et il était très, très difficile de leur faire faire des... comment dirais-je, de mettre de côté de l'argent pour les offrandes pour leur mission. D'abord parce que les gitans n'ont pas du tout le sens de la gestion financière. Comme je l'ai dit la dernière fois, ils vivent au jour le jour. S'ils ont gagné, par exemple, 800 francs dans la journée, le lendemain, il ne reste plus un centime. Et le lendemain, ils ne gagnent que 50 francs dans la journée, ils vivent avec 50 francs, c'est comme ça. Bon, alors c'est la même chose en ce qui concerne les offrandes. Comme ils voyagent tout le temps, le frère Cossack disait, mettez de l'argent de côté, quand vous arrivez, par exemple, pour une convention, etc., vous déposez des offrandes. Ça, il n'a jamais réussi à ça. Ce n'est pas dans les mœurs des gitans. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que, ça rentre un peu malgré tout, mais c'est surtout le fait que maintenant, il y a une semi-sédentarisation des Tziganes. Et la plupart des Tziganes construisent des maisons et les occupent pendant l'hiver. Et le printemps venu, la belle saison venue, selon leur expression, ils attellent. Ça veut dire qu'ils prennent les caravanes et ils partent. Et alors, se sont créés un peu partout en France, et au-delà de la France, des églises tziganes, des églises permanentes, des églises en dur, qui fonctionnent pendant 6 bons mois de l'année, disons pendant les mois d'hiver, pendant les mois où les gitans sont sédentarisés. Et en général, à la belle saison, on met la clé sous le paillasson, jusqu'à l'automne suivant. Et le fait que les tziganes donc se sédentarisent, en tout cas se semi-sédentarisent, disons, certains sont carrément sédentaires, mais la grande majorité sont quand même semi-nomades aujourd'hui, les amène à vivre une vie d'église un peu plus régulière. Les églises en dur sont autofinancées, et donc automatiquement les Tziganes sont obligés d'apporter une offrande pour la construction et l'entretien des églises qui sont les leurs. Pour ce qui est des serviteurs de Dieu, comme il est dit, comme il les nomme, peu d'entre eux sont rémunérés, dans la mesure où, en général, ils se débrouillent pour avoir leurs propres moyens de subsistance. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de problèmes. C'est plutôt pour les problèmes de locaux. Et puis, évidemment, l'administration générale de la mission, c'est un problème aussi autre. Et donc, pour compenser le manque à gagner, puisque la plupart des Tziganes donnent leur offrande à leur église à laquelle ils sont rattachés, le frère Cossack avait lancé dès le début de l'œuvre Fabien Tzigane une revue qui s'appelait d'abord s'était appelée Lumière du monde, qui était en principe la revue de la jeunesse pentecôtiste dont le pasteur Le Cossack, le jeune pasteur Le Cossack qu'il était à cette époque-là, avait la charge, la responsabilité. Quand il a lancé le mouvement Tzigane, Lumière du monde est devenu Vieille Lumière. C'était un journal qui donnait essentiellement des nouvelles de l'œuvre tzigane, qui avait pour but essentiellement d'inciter les non-tziganes à envoyer des offrandes pour soutenir la mission, parmi les gitans. Cette revue n'a pas toujours été bien vue par les pasteurs pentecôtistes, qui voyaient un peu le frère de Cossack agir en franc-tireur de cette manière-là. Et ça a été un sujet de friction et de tension, justement, entre la mission tzigane, et ça le reste encore jusqu'à un certain point, d'ailleurs, et le mouvement des Assemblées de Dieu. Ce problème des offrandes et de problèmes financiers, qui a toujours été un petit peu un des talons d'Achille de la mission, a provoqué aussi des tensions avec les tziganes eux-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, les tziganes sont très, très chatouilleux en ce qui concerne l'argent. Et ils sont très soupçonneux. Ils imaginent qu'il faut absolument que les choses soient d'une transparence et d'une clarté totale, ce qui est normal. Mais enfin, pour eux, ça va très loin. Et à plusieurs reprises, des grandes souffrances du pasteur Le Cossack, c'est qu'il a été accusé méchamment, parfois et violemment, par les gitans de ne pas être honnête. Ce qui était totalement faux, parce que le frère Le Cossack est un homme d'un désintéressement total sur le plan financier. Il l'a montré à plus d'une reprise. C'était d'autant plus douloureux pour lui, justement, qu'il savait qu'il était honnête jusqu'au dernier centime, mais qu'au contraire, souvent, il était de sa poche pour un certain nombre de choses. Et donc, ça, c'est toujours quelque chose de très, très délicat en milieu de tzigane, justement, toutes les questions qui touchent aux finances. Dans ces années-là, donc, l'œuvre qui avait gagné la France entière s'est étendue. Et actuellement, il y a des branches de la mission tzigane dans 42 nations. Et l'œuvre tzigane est devenue une œuvre mondiale. Le pasteur Le Cossack est devenu président mondial de la mission, tandis que Jimmy est le président pour la France. Voilà. Un des premiers pays qui a été touché fut l'Espagne. L'Espagne, qui était alors sous le régime franquiste, dans lequel la liberté religieuse n'existait pas. Il était strictement interdit d'implanter une autre religion que la religion catholique et romaine. C'est en 1960 qu'un gitan espagnol, qui se nommait Rodriguez, se convertit en France, dans une mission, à Villeneuve-sur-Lot. Il était originaire de Barcelone, et après s'être converti avec sa famille, il est retourné donc dans sa ville natale, Barcelone. Il a commencé à rendre témoignage autour de lui, et il a rencontré un autre gitan qui lui aussi travaillait en France, se nommait Jaime Díaz, qui était originaire de Balaguer, en Catalogne, également à quelques dizaines de kilomètres de Barcelone, au nord de Barcelone. Et ces deux hommes ont donc commencé à rendre témoignage. Je ne peux pas dire que c'était véritablement une église, d'autant que c'était extrêmement dangereux, et c'était interdit à cette période-là en Espagne. Mais deux autres gitans, on appelle gitanos, c'est-à-dire des gitans espagnols qui sont installés en France, qui ont commencé à faire des véritables missions là-bas. Il s'agissait de Félix Ritz et d'Antonio Jiménez, qui, partant de France, où ils étaient installés, ont eu le fardeau de l'Espagne et sont partis, avec certaines doses de foi et de risques, n'est-ce pas, commencer des missions dans le nord de l'Espagne, à Santander. Puis, trois autres prédicateurs sont partis depuis Bordeaux pour évangéliser Madrid, les tziganes qui se trouvaient à Madrid. Et c'est là que, c'était en 1968, pardon, que la mission a commencé, donc à Madrid. Bon, 68, c'était un petit peu la fin du franquisme. La situation devenait un petit peu moins difficile là-bas. Les États-Unis, qui avaient des bases militaires en Espagne, avaient réussi à imposer une certaine tolérance de fait, n'est-ce pas, au régime franquiste. Et en 1967, une espèce de loi sur la tolérance religieuse avait été votée au Cortés espagnol. Mais enfin, c'était plus pour la galerie, c'était plus pour satisfaire les Américains que quelque chose qui est véritablement passé dans les faits. Et les quelques rares protestants qui se trouvaient en Espagne continuaient à dire qu'ils étaient terriblement persécutés. Donc, c'était un grand acte de foi que d'envoyer donc trois prédicateurs prêcher l'évangile aux tziganes à Madrid en 1968. Donc, ils se sont installés dans les faubourgs de Madrid, où les gitans stationnaient, et là a eu lieu un miracle absolument retentissant. Il y avait dans une des caravanes un enfant qui était, un jeune homme, je ne sais plus exactement, qui était paralysé, qui souffrait énormément d'ailleurs. Et les trois prédicateurs sont entrés dans la caravane, ont prié pour cet enfant, qui s'est mis à marcher. Et immédiatement, il est sorti dans le quartier, hurlant sa joie, suivi par les autres gitans. Vous voyez comment sont les gitans, quand ils sont joyeux, ils le montrent. Hein, il criait partout, Gloria Dios, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est pas, toute la foule a été ameutée, qu'est-ce que c'est qui se passe, voilà, etc. Et alors, la Guardia Civile est arrivée, la garde civile est arrivée. Les trois prédicateurs ont été ramassés et ont été jetés en prison sans autre forme de procès. Ça fait penser à l'histoire des apôtres après la guérison du paralytique de la Belle Porte à Jérusalem. Et là, ils ont demandé à avoir contact avec l'ambassadeur de France. On leur a refusé. Pendant 3 jours, ils ont été au secret, dans des conditions de détention absolument épouvantables. Et au bout de 3 jours, ils ont quand même réussi à avoir contact avec le consul français à Madrid, qui a averti les autorités de la mission tzigane. Le frère Lecossec, qui était en mission, je ne sais plus exactement, en Suisse, était en mission en Suisse, je crois, à ce moment-là, est revenu d'urgence en France. Là, il a téléphoné au président de l'association Défense de la foi évangélique en Espagne, qui était le pasteur Cardona, pasteur espagnol, pour lui demander d'intervenir en faveur des trois prédicateurs qui étaient incarcérés. Bon, il a fait intervenir un autre pasteur qui s'appelait Baltasar López. Et malgré ça, rien. 5 jours ont passé encore, et les trois frères étaient toujours en prison. Alors, Frère Cossec a pris sa voiture, il est descendu lui-même en Espagne. Et là, donc, flanqué de ce pasteur Cardona, il est allé voir les autorités espagnoles, le juge de la Cour suprême en particulier. Et après une discussion extrêmement serrée avec le juge de la Cour suprême, ce juge qui prétendait que les trois prédicateurs avaient violé les lois espagnoles, etc., bon, est allé lui-même les faire remettre en liberté. Là-bas, les trois prédicateurs se morfondaient depuis des jours et des jours en prison, commençant à se désespérer, etc. Il y avait un jeune prédicateur qui commençait à flancher, etc. Bon, évidemment, ça a été une grande joie de pouvoir les sortir de là, mais ils étaient expulsés d'Espagne avec interdiction, ils étaient interdits de séjour en Espagne. C'était la condition pour qu'ils soient libérés. Donc on peut dire que d'une certaine manière, c'était l'échec de la première évangélisation de l'Espagne. En Belgique, pendant ce temps-là, les choses aussi se développaient avec le prédicateur Charpentier, qui faisait partie de la tribu, d'une tribu dite des voyageurs, qui ne sont pas véritablement des tziganes, mais qui sont des gens qui voyagent un peu comme ça. En 1962, ce fut le tour de la Hollande. Amsterdam a été évangélisée par un certain nombre de gens qui étaient proches justement des gitans belges, qui étaient donc bilingues et qui parlaient donc le néerlandais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu très vite des problèmes dans la mission d'Amsterdam avec le mouvement Jésus seul. Et puis est venu donc le prédicateur Osborne. La mission d'Osborne qui a eu lieu à Amsterdam cette même année a permis donc de faire se développer la mission. Mais donc ce problème de Jésus seul, ce problème de l'unitarisme était quelque chose qui restait en suspens pendant des années et qui a empoisonné donc la mission hollandaise. En 1962, toujours en Allemagne, des rescapés, des gitans rescapés de la Shoah. Vous savez que les gitans ont été persécutés exactement comme les juifs pendant la Shoah, se sont retrouvés chez un pasteur, un jeune pasteur allemand, Heinz Mann, qui était élève dans une école biblique et qui a recueilli des gitans qui étaient malades, des suites justement de ce qui s'était passé dans la Shoah. Et le pasteur Heinz Mann a été tellement bouleversé par le témoignage de ces gitans qu'il a décidé, lui qui n'était pas gitan, de consacrer son ministère parmi les gitans. Et il est devenu, il est resté jusqu'à aujourd'hui, le responsable de la mission tzigane en Allemagne. Une mission qui a commencé à se développer considérablement à cette période-là. En Suisse, le pasteur d'origine espagnole, le prédicateur d'origine espagnole, Balthazar Lopez, a évangélisé donc la région de Genève, le Valais. Et là, un jeune prédicateur s'est levé, Madou, qui est encore aujourd'hui le responsable de la mission tzigane en Suisse. Là, il a évangélisé en particulier ce qui était la majorité des gitans suisses, qui est un groupe tout à fait particulier qu'on appelle les Yéniches. Ce sont des blonds, des gens qui sont blonds aux yeux bleus, qui sont une tribu tout à fait à part, qui vivaient jusqu'à peu encore dans des roulottes tirées par des chevaux à l'ancienne encore. En 1956 aussi, quelques gitans avaient tenu des réunions en Italie sur l'invitation d'officiers de l'armée du salut qui se trouvaient là-bas. Et une collaboration très fructueuse s'était nouée avec l'armée du salut d'une part, et puis les églises vaudoises, issues donc du réveil des Vaudois du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, avec les églises vaudoises qui se trouvaient notamment en Calabre, dans le sud de l'Italie. Et dans ces années 60, au début des années 60, le pasteur Le Cossec est donc allé en Calabre pour établir un peu l'œuvre là-bas, et notamment aussi pour apporter des secours, parce que les choses, les gens de cette région étaient particulièrement pauvres. Et c'est alors que là, il a fait une expérience tout à fait négative. Les gitans qui se trouvaient là-bas sur ces campements, lesquels se trouvaient les frères, se sont pratiquement jetés sur les camions qui accompagnaient le pasteur Le Cossec, et en l'espace de quelques minutes, les ont totalement dévalisés de tous les secours qu'ils contenaient, s'arrachant les objets, se battant les uns les autres pour les posséder, etc. C'était une véritable foire d'empoigne. Et l'œuvre d'évangélisation a été impossible. Pas un seul s'est converti. Et là, le pasteur Le Cossec est arrivé à cette conclusion que le travail social devait suivre le travail d'évangélisation, mais qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Et les secours devaient venir uniquement après. D'abord l'Évangile, et après, quand les gens s'étaient convertis à Jésus-Christ, alors là, on pouvait leur apporter, des secours. C'était à Reggio de Calabre qu'a eu lieu cette expérience tout à fait négative. En Angleterre, existaient déjà des tziganes convertis, notamment à la suite du ministère, vous savez, du célèbre Gypsy Smith. Gypsy Smith, qui était un gitan qui s'est converti, était un des grands revivalistes de la fin du siècle dernier, du début du siècle. Et il y avait donc en Angleterre une œuvre qui s'est développée et une autre qui s'est développée aussi en Irlande, l'Irlande du Sud. On appelait ça les Tinkers. Ce sont aussi une tribu gitane, tzigane, tout à fait particulière, très pauvre, qui aussi se déplaçait dans des voitures tirées par des chevaux et qui étaient fabricants de paniers. Ils cueillaient dans les tourbières, etc., des végétaux avec lesquels ils tissaient ils faisaient de la vannerie, etc. C'était leur moyen de subsistance. En Grèce, il existait aussi déjà un certain nombre de gitans qui avaient eu l'occasion d'entendre l'Évangile, mais le développement de l'œuvre s'est heurté à l'opposition des prêtres orthodoxes. C'est un frère qui était à moitié gitan, s'appelait Zanelato, qui est responsable de l'œuvre en Grèce jusqu'à nos jours. Bon, il a fallu évidemment circonvenir un petit peu cette opposition des prêtres orthodoxes. Ça s'est fait plus ou moins bien. En 1967, après la guerre des Six Jours, le frère Le Cossec a rencontré dans la ville de Jérusalem un certain nombre de tziganes. Tziganes qui étaient musulmans, bien entendu. Et il les a évangélisés de sorte qu'il y a un petit mouvement, tout petit mouvement de Tziganes évangéliques parmi justement le petit nombre de Tziganes qu'il y a en Israël, parce que c'est quand même un très petit nombre aussi. Il y a aussi des Tziganes convertis en Turquie, en Syrie, et bien entendu en Scandinavie. En Scandinavie, l'œuvre a commencé en 1954 par un gitan qui s'est converti dans la grande église de Philadelphia de Stockholm sous la direction du ministère de Lewis Petrus. Et il a fallu de très longues années pour que l'œuvre en Scandinavie se développe malgré tout. Je ne sais pas trop pourquoi. Et ce n'est que dans les années 70 que c'est parti comme une traînée de poudre, notamment par l'intermédiaire du frère Heinz Mann d'Allemagne qui est venu en Finlande et puis ensuite dans les autres pays scandinaves. Les USA ont été touchés en 1962 lors de la convention de Lille quand Osborne est venu à Lille. Il y avait quelques familles tziganes américaines qui l'avaient accompagné et qui se sont converties. Et ces tziganes ont demandé au pasteur Kosek de venir aux États-Unis pour développer l'œuvre là-bas. Si bien que à l'hiver 1963, pasteur Kosek et toute une équipe de la mission s'embarquaient sur le paquebot France à cette époque-là et débarquaient à New York. De là, ils se rendaient à Pittsburgh, où étaient ces familles tziganes qui s'étaient converties l'année précédente, et à Detroit, où il a commencé à évangéliser les tziganes. En fait, comme le pasteur Le Cossec le disait, ce premier voyage aux États-Unis fut surtout un voyage d'études pour situer le peuple tzigane aux États-Unis. Ce voyage l'a amené jusqu'à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, et San Francisco. Et là, se sont établies des églises tziganes qui sont très nombreuses et qui aujourd'hui comptent entre 200 et 1000 membres. Il s'est rendu aussi à Springfield, qui était le quartier général des Assemblées de Dieu américaines. Et là, il a demandé que les Assemblées de Dieu américaines prennent en charge les gitans. Et le quartier général de l'Assemblée de Dieu de Springfield a accepté donc d'ouvrir un département spécial pour l'évangélisation des gitans. Le frère Le Cossec a fait en tout et pour tout 15 voyages aux États-Unis. Le deuxième voyage a eu lieu en 1964 avec Stevo, qui était un des frères les plus spirituels de la mission tzigane, et puis Félix Ritz. Un voyage qui les a amenés à Chicago, Portland, ce qui les a amenés aussi à vivre des aventures particulièrement difficiles. Par exemple, un soir, ils n'avaient plus d'argent. Je ne sais pas si ils n'étaient pas fait voler leur argent, d'ailleurs. Ils ont dû aller loger dans un hôtel pour clochards, au milieu d'une fange, d'une boue épouvantable, des puces, des cafards, des animaux peu appétissants qui couraient dans leur lit, etc. C'est un des moments les plus difficiles dont ils se souviennent de toute son aventure. Il est accompagné de son fils Jean, qui a décidé d'étudier justement dans une école biblique de la côte ouest, où il a rencontré sa fiancée. Et Jean est devenu donc un des principaux collaborateurs de son père dans la mission tzigane. Stevo est resté à la suite de ce voyage à Montréal, où il a loué une grande maison, et là il a évangélisé toute cette région qui va jusqu'à New York. Quant à René Zanellato, lui, il est allé jusqu'au Mexique, et il s'est installé plusieurs années au Mexique pour évangéliser le Mexique. C'était l'expansion de l'œuvre tous azimuts. De là, le frère Le Cossec est retourné au Brésil, à Rio, et puis à Sao Paulo, pour créer là-bas aussi l'œuvre parmi les tziganes qui se trouvaient dans ces lieux-là, en sorte qu'il y a aujourd'hui 260 lieux de culte tziganes et à peu près 300 000 convertis et une centaine de pasteurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Mais le pasteur Kosek savait aussi qu'il y avait de très nombreux tziganes dans les pays de l'Est. Les pays de l'Est qui, à cette époque-là, étaient derrière ce qu'on appelait le rideau de fer. Frère Cossack était quelqu'un qui ne se laissait pas arrêter par les rideaux même de fer, et il a donc décidé d'évangéliser ces pays-là. Et c'est ainsi que le 4 avril 1967, il gagnait la Pologne. Là, il y a à peu près 100 000 gitans, tout ce qui reste des gitans qui ont été massacrés dans la Shoah. Et puis de là, il passait en Tchécoslovaquie, puis en Hongrie, en Roumanie, où il a assisté à un grand réveil, alors que là-bas, dans ce pays, il y a 1 million de gitans. 1 million de gitans en Roumanie. En Bulgarie, il a été pris en charge par la fameuse Intouriste, l'agence officielle par laquelle devaient passer tous les visiteurs étrangers. C'est-à-dire qu'on avait un guide qui vous était affecté, qui était en même temps évidemment quelqu'un qui était chargé de vous surveiller pour que vous ne dérogiez pas. Alors, avec ce guide, qui était un gitan d'ailleurs, un gitan communiste, Frère Lukasek a joué carte sur table, c'est-à-dire qu'il était venu pour évangéliser. Alors l'autre était un petit peu embêté, etc. Bon, et puis alors ils ont des discussions très très poussées, n'est-ce pas ? Et Frère Lukasek lui a pris le texte de Jacques VI, vous savez, sur les riches qui ne payez pas le salaire de vos ouvriers, etc. Malheur à vous, etc. Il dit, vous voyez, mais ça c'est dans l'Évangile. Ben oui, c'est dans l'Évangile, regarde. Alors, il dit, tu peux me prêter ta Bible ? Et alors, le soir, donc, il a prêté la Bible. Et le lendemain, le communiste, le gitan communiste, a rendu la Bible et dit, ben, je ne savais pas que la Bible, c'était ça quand même. Il dit, je l'ai lu toute la nuit. Et puis, donc là, ça a changé complètement la nature de leur relation. Et quand ils sont partis, le gitan communiste de l'intouriste lui a dit ben, « Au revoir, frère. » Au revoir, frère. Bon. Ensuite, il est allé en Yougoslavie. Et alors là, il a connu un incident qui aurait pu être tragique. Des gitans qui étaient hostiles à l'Évangile, il y en a aussi, il n'y avait pas que des gens qui étaient ouverts. Et on lui a tiré dessus au pistolet. Bon. Alors ça, c'était un premier... Bon, heureusement, le tireur a loupé son coup. Enfin, ça fait quand même drôle de se voir mis en joue et d'entendre une balle qui siffle à vos oreilles. Mais ce n'était pas le seul problème. Ils voyageaient dans leur voiture dans un brouillard épouvantable. Quand soudain, un camion est venu juste en face, complètement à gauche, et ça a été le choc frontal, le choc entre ce camion et la voiture. S'il n'y a pas eu de blessés, ça a été véritablement un miracle de Dieu. Mais manifestement, il y avait là des oppositions démoniaques à ce voyage qu'il faisait en Yougoslavie. Bon, à cette époque-là, le frère Kosek avait 8 enfants qui restaient seuls avec leur mère. En 1978, sa femme, qui était frappée de leucémie, est morte. Bon, il s'est marié quelques années après. Bon, et puis alors, très vite, le frère Kosek a eu aussi la vision de l'Inde. L'Inde qui était le berceau des gitans, et où il y a le plus grand nombre de gitans, évidemment, qui sont là-bas sédentaires, qui font partie des outcasts, des orcastes, quoi. Et le voyage lui a été offert par Gaston Lauré en novembre 1966. Là, il a été particulièrement frappé par la misère humaine qu'il y avait à Bombay. Il a rencontré un jeune ingénieur agronome chrétien, qui était le gendre des responsables de l'œuvre de la Porte Ouverte à Chalon-sur-Saône, s'appelait Dufour. Et là donc, il a décidé de créer un orphelinat pour s'occuper surtout des enfants gitans, des orphelins gitans, et une école biblique. Et en même temps aussi de faire toute une œuvre... creuser des puits, des choses comme ça. Comme Dufour était spécialiste dans toutes ces choses-là, Dufour a ses joints à la mission tzigane. Et le frère Kosek, par son intermédiaire de son journal Vie Lumière, a fait des appels de fonds pour justement créer des puits en Inde, créer une école biblique et créer des orphelinats pour les enfants des Indes. Et c'est ainsi que, en novembre de 1972, alors, il a eu une idée un peu folle, qui était de rejoindre avec Dufour l'Inde par la route. Il avait une Citroën, une idée, ou une DS 19, quelque chose comme ça. Et alors, il est parti par la Turquie, le Taurus, le Caucase, passé par Tars, par Antioche, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Et c'est là qu'il a rencontré, c'était l'époque où les jeunes hippies allaient à Katmandou. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais c'était la route de Katmandou là, qu'il a suivie. Et voyez ces jeunes hippies, des Européens, etc. Et alors, comme c'est le frère Cossack est un homme qui a toujours des idées extraordinaires, c'est un apôtre, hein. Il faudrait que quelqu'un s'occupe de ces jeunes. Moi, je ne peux pas, je n'aurais pas mes temps à m'occuper. Moi, j'aurais fait quelque chose pour cela. Et alors, de retour en France, il a fait appel pour créer une espèce de refuge, enfin de centre d'accueil sur la route de Katmandou pour évangéliser ces jeunes. Bon, ça a marché pendant quelques années. Plusieurs sont allés, là, parmi ceux qui étaient issus du réveil charismatique. Des jeunes catholiques aussi, d'ailleurs, se sont allés s'occuper de... Et un certain nombre de... Il y a eu des conversions assez remarquables de gens qui ont été tirés des problèmes. Johnny Nord était plus ou moins en cheville avec cette organisation-là, parce que c'était l'époque où il avait son centre à Copenhague, centre pour drogués à Copenhague. Souvent, les pays étaient aussi des drogués, donc tout ça allait plus ou moins ensemble. Il en a récupéré un certain nombre, d'ailleurs. Et les choses, alors, se sont considérablement dégradées quand il est arrivé tout près de la frontière russe, où il a dû passer un col à 2510 mètres d'altitude. Et là, le col était enneigé, la route était complètement enneigée, et la voiture est passée sur un endroit où vous n'avez pas vu une énorme pierre qu'il avait cachée sous la neige. Et tout le fond de la voiture a été éraflé par cette pierre, c'est pas voilà, en plein pays donc non civilisé, on peut dire. Là, il n'y avait pas de garage à des dizaines de kilomètres alentour, pas de pièces détachées, tout seul dans la neige, là, perdu à 2000 et quelques mètres d'altitude. Là, j'ai cru qu'on allait mourir. Là, bon, ils ont arrêté des voitures ou des charrettes qui passaient. Bon, ils sont descendus dans la ville la plus proche. Vous avez quand même pris Europe Assistance avant le départ. Ils ont téléphoné. Alors, on leur a envoyé par avion des pièces détachées pour réparer la voiture, un réparateur pour réparer la voiture. Ça a pris des semaines. Ils ont été immobilisés. Puis la voiture réparée, ils sont partis direction l'Afghanistan. L'Afghanistan qui était en guerre. Et là, donc, ils sont arrivés un soir à une certaine passe qui, de tout temps, était occupée par la guérilla. Et on leur a dit, écoutez, vous ne pouvez pas aller là-bas, surtout les étrangers, vous n'en sortirez pas vivants. Passer cette passe, c'est la passe de Peshawar, si ma mémoire est bonne, là, vous n'avez aucune chance d'en sortir vivant. Alors, le sac a prié, et puis, à ce moment-là, est arrivée une voiture de diplomates étrangers. Alors, dit, mais ah ben nous on va, on a un laissez-passer spécial, on peut passer par la guérilla. Est-ce qu'on peut vous suivre? Ils ont dit, vous pouvez nous suivre, mais on ne garantit rien parce qu'on sait qu'ils détroussent les touristes. Si vous voyez que vous êtes des touristes, vous avez une grande chance de vous faire détrousser. Et si vous ne faites que détrousser, vous serez assez heureux de vous en sortir vivant. On risque le coup. Et alors, ils ont suivi la voiture des diplomates. Ils ont été arrêtés par des bons hommes armés jusqu'aux dents, qui avaient des mines patibulaires, qui les ont entourés. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Etc. Puis bon, ils ont pris leur passeport. Ils sont allés, là, ils ne comprenaient pas un mot, ils discutaient. Je sais pas. Puis finalement, ils ont fait signe aux diplomates de partir. Et puis, allez-vous, allez aussi. Ils ont suivi les diplomates, sans demander leur reste. Etc. C'est ainsi qu'ils sont arrivés donc au Pakistan, puis ensuite en Inde, à New Delhi. Et là, le frère Cossé a rencontré un spécialiste de l'histoire des gitans, qui a fait un petit peu l'historique de ce qu'on pouvait savoir justement de l'histoire des gitans, qui serait d'origine indienne et qui sont partis deux siècles avant Jésus-Christ depuis la mer d'Aral pour justement les pérégrinations mondiales. Et ce serait en 492 après Jésus-Christ qu'un groupe aurait quitté l'Inde pour l'Europe. Le frère Cossack fera un nouveau voyage en Inde en 1990 avec son fils Étienne, Roland Burki et puis Dufour, toujours pour cette histoire des puits. En 1988, deux ans auparavant, l'école biblique avait été ouverte pour former 100 prédicateurs gitans indiens. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 églises qui ont été ouvertes. Le responsable de l'école publique et Salomon. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de lui. Il est venu ici il y a des années, n'est-ce pas, avec Dufour. Bon, Salomon s'était converti en 1976 et c'est lui qui avait construit l'école publique. La Russie a été évangélisée en 1986 par Zanellato et son épouse, qui avaient rencontré là-bas des Roms, donc une tribu tout à fait particulière, qui, tout à fait par hasard. Et là, ils avaient gagné Moscou. Ces gens s'étaient convertis aussi en 1989 dans une convention internationale qui avait eu lieu en Hollande. Et là, donc, on peut dire que 42 pays ont ainsi été évangélisés. Bon, entre-temps, le centre des choux avait dû être vendu dans les conditions que j'expliquais la dernière fois, à cause de ces histoires de faisans qui avaient été chassés par les chiens des gitans. Il a fallu d'ailleurs payer aussi des frais considérables d'un procès que les chasseurs avaient gagné contre les gitans, tant et si bien qu'il a été décidé d'acheter un grand terrain qui pourrait servir aussi à accueillir des conventions, des milliers de caravanes. Souvent, les conventions internationales étaient des aventures très, très difficiles. Et en particulier, en 1970, on avait frôlé un incident grave après la vente du château des Choux dans la nouvelle propriété qui avait été achetée, je ne me souviens plus exactement à quel endroit, quelque part dans le Verbourg, quelque chose comme ça. Et là, donc, ou vers Orléans, peu importe, des centaines et des centaines de caravanes étaient venues de tout le pays. Et là, bien entendu, dans ces cas-là, bon, bah, vous savez, tous les gitans ne sont pas convertis, et notamment chez les jeunes. Et alors, il y a toujours, dans ces moments-là, des exactions qui sont commises par des éléments incontrôlés des missions de tziganes. Et alors, évidemment, ça provoque des tensions avec les habitants des endroits qui se trouvent. Le camp était véritablement assiégé. Personne ne pouvait rentrer ni sortir dans le camp. Des forces de police considérables s'étaient rassemblées. Les gitans vont être convertis, vous savez, la vue d'un uniforme, c'est pas quelque chose qui les remplit d'un enthousiasme délirant. Et là, il y en avait des centaines et des centaines, avec des chiens, comme si c'était des malfaiteurs, quoi, avec des voitures, des camions, etc. Et alors, le commandant de cette expédition-là, qui était quelqu'un qui n'était pas trop, trop finaud, avait décidé de faire passer tous les gitans, un par un, à une fouille, à un contrôle. Ils devaient donc se présenter. Ce qu'a dit, bon, si vous voulez la révolution, c'est ça. Hein. Là, moi, je réponds de rien si vous faites ça. Alors, j'ai des ordres, j'exécute les ordres. Il a fallu que Frère Kosek appelle directement le ministère de l'Intérieur et un ordre du ministre lui-même. Il a dit, monsieur le ministre, je vous préviens, nous sommes au bord de l'insurrection. Si vous ne donnez pas l'ordre de lever le siège, je ne réponds de rien. Et le ministre a compris, bon, Ça chauffait. Il a donné l'ordre à son colonel de gendarmerie, là, qui était un peu une tête brûlée, de lever le siège. Alors, ce n'est pas toujours de tout repos. Et à la suite de ça, donc, Frère Kosek a décidé de ne plus organiser des conventions internationales trop grandes, quoi, hein, de faire plutôt des conventions nationales plus décentralisées, plus petites. Mais même ça, ça représente quand même déjà une infrastructure importante, ça représente des centaines de caravanes. Une des plus célèbres est une de celles qui a eu lieu en Bretagne dans ces années 70, fin des années 70, dans le nord de la Bretagne, là-bas, près d'en bordure de mer, je ne sais plus, vers Dinan, par là, quelque chose comme ça. Et là, c'était sous Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, donc, devait venir visiter, non pas les gitans, mais la région. Et puis, il y avait des tensions avec les populations locales. Et Giscard d'Estaing s'est fait insulter. Il a reçu des tomates, il a reçu des fruits pourris à la figure, etc. Bon, bref, il a dû retraiter à toute vitesse. Et la pression des manifestants l'a ramené vers le camp où les gitans tenaient leur convention. Et là, les gitans, au contraire, voyons arriver Giscard d'Estaing, « Monsieur le Président, mais venez, venez, etc. » Et alors, ça a été « Dieu te bénisse, Giscard, etc. » Enfin, et Giscard, qui venait de prendre des tomates plein la figure, était tout content de trouver des gens qui étaient un petit peu plus sympathiques. Et alors, Jimmy, monsieur le président, vous permettez que je me fasse photographier avec vous? Et il attrape comme ça. Et Giscard tout souriant, mais bien sûr, etc. Je crois que, je sais pas s'il a pas été dire quelques mots sous la tente, etc. Et le soir, ou le lendemain, je sais pas, son chef de cabinet a envoyé un mot au Charles Cosset, disant le président, monsieur le président Giscard d'Estaing était très touché par l'accueil, si gentil, je sais pas, qui a été, etc. Puis toute la presse en a parlé, etc. Ça, c'était tout à fait le contraire de ce qui s'était passé quelques années auparavant, donc quand on était au bord de l'insurrection. Donc, un terrain a été racheté à plusieurs reprises, ils ont changé plusieurs fois d'endroit parce qu'il y a toujours des problèmes aussi avec des permis de construire, bien entendu. Les maires de la région se liguaient pour faire pression, pour empêcher que les permis de construire soient accordés. Finalement, ils ont réussi à construire là où ils se trouvent maintenant, à Énordre, qui est à la fois l'école biblique, les choux étaient en son temps, mais qu'ils ont construit directement et qui est donc beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus rationnel. Bon, ils ont aussi un terrain où ils tiennent des conventions. La dernière grande convention qui a eu lieu, justement, a eu lieu en Hollande, était la convention internationale à laquelle le frère Lecossec était opposé. Mais bon, les gitans ont voulu en faire leur tête, etc. Puis ça a été un fiasco, les mêmes problèmes se sont reproduits. Et depuis lors, donc, il n'y a plus de convention nationale. Le frère Lecossec s'est plus ou moins dégagé de l'essentiel de ses responsabilités, d'abord nationales, puis internationales. Mais par contre, maintenant, à près de 80 ans, il continue à se consacrer à fond à l'œuvre de l'Inde. Et, il développe l'œuvre de l'Inde là-bas, il est très souvent là-bas, et il continue à œuvrer de cette manière-là. Maintenant, ce qui est devenu l'œuvre tchigane depuis le départ, bon, ben, c'est un petit peu l'évolution de toutes les églises a suivi. Et le drame, le grand drame de la mission de Tsigane, ça a été lorsque, dans les années, à la fin des années 60, ils ont accepté la télévision. Et bien entendu, ça, alors là, ça a été la catastrophe. Sauf pour les gitanos du sud de la France, qui ont donc refusé la télévision. Et qui, de ce fait, tiennent mieux au point de vue spirituel. Mais le problème, c'est que, comme dans beaucoup d'églises évangéliques et pentecôtistes, les jeunes ne se convertissent pas, ou mal. C'est d'autant que les jeunes sont très souvent livrés à eux-mêmes. L'éducation des jeunes tsiganes est souvent très laxiste, tant et si bien qu'il y a un grave problème avec la jeunesse, un problème de relève avec la nouvelle génération. Certains finissent par se convertir, mais bon, c'est quand même toujours assez laborieux. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel des tziganes se sédentarise pendant les mois d'hiver et de plus en plus donc se créent des églises tziganes. Maintenant, il faut terminer par un mot de l'Espagne. L'Espagne que nous avions laissée donc dans les années 68 après l'échec de la mission des trois prédicateurs qui étaient venus de Bordeaux. Là, donc, l'œuvre a été reprise par Jaime Díaz depuis Balaguer. Et là, après des années de sécheresse et de persécution, à la mort de Franco, un petit peu avant la mort de Franco, exactement, le réveil a éclaté comme une traînée de poudre dans toute l'Espagne. Et à la fin des années 70, même, disons, dès le milieu des années 70, un des plus beaux réveils que le frère Lecossec ait jamais vu a eu lieu en Espagne. Et c'était tellement extraordinaire qu'il avait tenu, je me souviens, à nous le faire voir, Yvon Charles et moi, en 1976, dans la grande convention nationale qu'il avait rassemblée donc à Balaguer, qui était le berceau du réveil. Franco était mort un an auparavant, et c'était l'époque du réveil charismatique. Les autorités catholiques étaient favorables, et elles avaient prêté la grande cathédrale de la ville pour y tenir les réunions, qui étaient remplies de gitans qui étaient venus de toute l'Espagne. Et je me souviens de cette atmosphère absolument extraordinaire qu'il y avait dans toutes ces villes de Balaguer. C'était le mois de mai, il faisait déjà chaud là-bas, c'était plein été pratiquement. Et alors, les gitans arrivaient de toute l'Espagne avec des voitures, avec des grandes inscriptions, Gloria Dios, ou bien des inscriptions comme ça. Et puis alors, on les voyait déambulant les rues de la ville, conduisant d'une main la voiture, la fenêtre ouverte, et de l'autre main tapant sur la carrosserie de la voiture en chantant à tue-tête des chants, pas défilant dans les rues comme ça de la ville, mettant les magnétophones à plein tube, diffusant des cantiques, etc. Entre les réunions, ils étaient attablés aux tables des cafés avec les magnétophones, ça diffusait comme ça. Ils tenaient des réunions spontanées au coin des rues, évangélisant les gens, etc. Ils disaient, voyez, le plus grand miracle, c'est que, vous voyez ici, nous sommes tous des gitans ici. Regardez, nous n'avons aucun couteau sur nous, aucun poignard, etc. Ça, c'était pour des gitans qui avaient l'habitude de s'entretuer à coups de couteau. C'était comme ça, il y avait plusieurs témoignages. C'était tout à fait extraordinaire. Certains prédicateurs, la convention a duré 4-5 jours, je ne sais plus exactement, les réunions qui étaient interminables d'ailleurs, qui duraient des heures et des heures, certains ensuite allaient dans la montagne prier toute la nuit. Et Frère Cossack est obligé de se gendarmer avec eux, disant, écoutez, vous ne tiendrez pas, si vous ne prenez pas un peu de repos. Oui, mais nous, on est venu de loin, c'est en avoir en quelque sorte, je sais pas pour notre argent, mais enfin, on veut en avoir vraiment au maximum. Mais quand même, prenez quelques heures de repos. Certains n'ont pas tenu compte et pendant 3 jours et 3 nuits, n'ont pas dormi. Priant quand ils avaient du temps, etc. Enfin, c'était une atmosphère tout à fait extraordinaire. Là aussi, hélas, les choses se sont un petit peu amoindries et les gitans espagnols ont eu des gros problèmes justement avec Toronto, avec le réveil de Toronto, les problèmes de la sainte prostration, le repos dans l'esprit, les gens qui tombaient, etc. etc. Et maintenant, hélas, il y a aussi les problèmes des musiques rock, enfin des choses comme ça, qui font des concerts, des choses comme ça. Et là, même leurs frères de France, alors les gitanos français, ont pris des distances vis-à-vis de la mission. C'est l'influence de prédicateurs qui sont venus d'Argentine, notamment, qui ont été eux-mêmes influencés par les Nord-Américains, quoi, les gens des États-Unis et du Canada, quoi, qui ont entraîné, là, cette dérive. Bon, je ne sais pas où sont les choses, parce que c'est une nouvelle que j'ai eue à ce niveau-là. Donc, le bilan général de cette œuvre, c'est un des grands réveils de ce temps, un des plus beaux réveils de ce temps, même s'il a ses ombres, évidemment. Et quel est le réveil qui n'a pas ses ombres? Maintenant, évidemment, quel est l'avenir de cette œuvre? Elle a besoin de passer par un nouveau réveil, mais en l'espace d'une génération, quand même, 42, des gitans de 42 pays ont été évangélisés. C'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, quelque chose de tout à fait remarquable. Et parmi les réveils de ce temps, c'est quand même un qui mérite d'être mentionné, qui mérite d'être étudié. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?